France Musique. Ciné Tempo, une émission en partenariat avec le mensuel Positif.
Ciné Tempo. Par Thierry Jousse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciné Tempo. Aujourd'hui, troisième épisode de notre série du jazz au cinéma avec des compositeurs américains rythmiques et cuivrés à souhait, comme celui-ci par exemple. Premières utilisations du jazz dans un film, si ce n'est la première, pour débuter ce troisième épisode de notre série Jazz au cinéma. C'était le thème principal de la musique de film, même plus précisément d'un film célèbre, justement, Un tramway nommé Désir, mis en scène par Elia Kazan d'après la pièce de Tennessee Williams, avec Vivien Leigh et Marlon Brando dans les rôles principaux. Le thème et toute la musique du film étaient signés Alex North, un des grands compositeurs du Hollywood des années 50-60, qui a travaillé d'ailleurs jusqu'à la fin des années 80. Alex North, c'était un pionnier, un de ceux qui ont introduit le jazz et la dissonance dans la musique de film. Dans ce thème d'un tramway nommé Désir, on entend d'ailleurs parfaitement ce mélange de symphonique et de jazz au service d'un climat dramatisé. Une musique historiquement importante qui avait d'ailleurs à cette époque considérablement impressionné Miles Davis, qui semble s'en être souvenu à l'époque d'Ascenseur pour l'échafaud, même si a priori les deux partitions n'ont pas grand rapport. Poursuivons ce petit voyage dans la musique de film saisi par le jazz en quelque sorte, avec un compositeur nettement moins célèbre qu'Alex North, Leigh Stevens, lui aussi d'ailleurs un des premiers introducteurs du jazz au cinéma, venu de la radio où il officiait. Leigh Stevens fut d'abord un compositeur assez classique avant de se tourner vers des sonorités plus cuivrées, notamment dans Private Hell 36, un film de Don Siegel à l'époque en 1954, cinéaste de série B, un film noir nerveux d'1h20 avec la grande Ida Lupino dans le rôle principal. Un film à redécouvrir notamment pour sa bande originale très atmosphérique et évidemment très jazz dans les sonorités. Voici le thème principal de Private Hell 36. «
Thank you.
un blues pour Marlon Brando dans Ciné Tempo sur France Musique. Un blues for Brando, c'est le titre du morceau, dans le plus pur style jazz cool, jazz west coast. Très velouté, ce blues for Brando est encore signé Leigh Stevens, le compositeur dont je vous ai déjà parlé juste avant. Pour ce qui est peut-être son film le plus connu, L'équipée sauvage de Laszlo Benedek avec Marlon Brando. Justement, on le retrouve après Un tramway nommé Désir. Un film célèbre en son temps, 1953 précisément, année de sa sortie, puisqu'il met en scène une bande de motards un peu blouson noir, assez inquiétant, avec à leur tête le jeune Marlon Brando, au charisme déjà fascinant. Un film qui fit scandale à son époque, tant il inquiétait les Américains, par sa peinture d'une violence encore assez nouvelle dans la société, dans le cinéma. Aujourd'hui, ça fait un petit peu moins d'effet, mais bon. L'équipée sauvage qui contribua largement à instiller le mythe de Brando à travers son personnage dans le film. Il s'appelait, je crois, Johnny Stadler, devenu une icône rock en quelque sorte, même si la musique de Leigh Stevens, comme vous l'avez entendu, est plutôt très largement jazz. Un autre grand compositeur qui fut lui aussi saisi par le jazz dans les années 50, c'est le grand Franz Waxman, un des artisans du son hollywoodien dès les années 30, un compositeur d'origine allemande qui dans les années 50 était déjà un vétéran et par ailleurs un ami personnel du grand violoniste classique Jascha Heifetz, pour lequel d'ailleurs il avait composé un concerto pour violon. En 1956, Waxman se met très largement au jazz, avec lequel il avait déjà un petit peu flirté auparavant, pour un film de Don Siegel, encore lui, Crime in the Streets, Face au crime en français, avec un jeune comédien très prometteur, John Cassavetes. Il n'avait pas encore réalisé de film, encore une histoire de gang et de délinquants, c'était très dans l'air du temps à l'époque, dans le sillage justement de L'équipée sauvage, ou même de Graines de violence, ce film qui est signé Richard Brooks. La BO de Waxman est splendide, la preuve. vrai rareté à l'instant dans ce troisième épisode de la série, de notre série, c'est du jazz au cinéma, plus précisément la bande-son d'une poursuite nocturne, Night Chase, en anglais, qui figure dans la BO d'une obscure série B de 1957, Hot Rod Rumble, encore une histoire de gang de motards que je d'ailleurs n'ai jamais vue. La musique très expressive et très prenante et a été composée par un musicien hollywoodien assez peu connu, Alexander Courage. Enfin, peu connu si on veut, parce que en fait, il fut un arrangeur de comédie musicale très très prisé, comme pour Tous en scène de Minnelli ou My Fair Lady de George Cukor, bon, ce qui est quand même parmi les sommets du genre. Puis plus tard, alors qu'il travaillait beaucoup pour la télévision, le compositeur attitré de la série culte Star Trek, oui, a signalé que cette musique donc rare, celle de Hot Rod Rumble, a tout de même été éditée ou rééditée pour le CD en 2013 sur le label bien nommé Jazz in the Movies. Ça pourrait être le sous-titre, bien sûr, de cette série. Tout de suite, un autre compositeur dont le nom n'est pas très connu du grand public non plus, Kenyon Hopkins, un compositeur qui travailla pour l'orchestre, pour le concert en dehors du cinéma et qui fut même l'auteur d'un ballet un peu jazz intitulé Rooms, avant de devenir directeur musical de Paramount TV. Kenyon Hopkins a aussi un peu travaillé pour le cinéma, pour quelques films d'Elia Kazan notamment, Baby Doll ou Le Fleuve Sauvage, mais aussi pour un très beau film de Robert Rosen, et non pas Robert Rosen, hein, c'est pas la même personne, L'Arnaqueur, The Hustler en anglais, un des grands rôles de Paul Newman, c'était en 1961, l'histoire d'un grand joueur de billard, L'Arnaqueur justement, entraîné dans une trajectoire, on va dire, incertaine pour ne pas révéler la fin du film. Là encore, la musique de Kenyon Hopkins puise très largement dans le jazz, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte avec ce thème, le thème qu'on va entendre, le thème du générique, le thème principal, très recommandable. We'll be right back. Thème principal d'un film un peu oublié, c'est un peu la tendance de cette émission où j'essaye de vous faire découvrir des choses pas trop rebattues. C'était tiré d'un film qui s'appelle The Subterraneans, Les rats de cave en français, une adaptation, on va dire, assez mineure d'un sublime roman de Jacques Kerouac, Les Souterrains, une adaptation donc réalisée par Ranald MacDougall, un cinéaste dont effectivement le nom n'est pas archi connu, avec tout de même Leslie Caron, française, et George Pippard, donc dans les rôles principaux. C'était en 1960. C'est une évocation assez hollywoodienne de l'ambiance de la Beat Generation, où le jazz tient forcément une grande place. On peut croiser dans le film notamment le grand saxophoniste Jerry Mulligan, et la musique est signée par un compositeur important, André Prévin, si on prononce à la française, qu'on a pu entendre ici au piano en trio en compagnie de deux cadors, Shelly Mann à la batterie et Red Mitchell à la contrebasse, avec lequel Prévin a travaillé beaucoup, énormément. C'était le thème principal du film. André Prévin, qui à l'époque travaillait intensément à Hollywood et qui, en dehors de ses talents de compositeur et de chef d'orchestre, fut aussi un grand pianiste de jazz en trio, donc par exemple, comme on a pu l'entendre à l'instant, mais aussi auprès de grandes chanteuses comme Doris Day. Sa musique pour les citerrains, en tout cas, est sans doute sa plus jazz, et c'est sûrement aussi, je pense, à une de ses plus grandes réussites dans la musique de film.
France Musique, Ciné Tempo, Thierry Jousse.
par la grâce de cette musique, nous étions transportés à Coney Island, à New York. C'était en fait l'extrait de la bande originale d'un film important de 1963, The Cool World, signé Shirley Clarke. Le film, dans la mouvance de, on pourrait dire, des premiers films de John Cassavetes. Et la bande originale était signée, alors, par un vrai musicien de jazz, ce qui n'était pas toujours le cas dans les morceaux précédents. Enfin, on était plus sur des compositeurs qui utilisaient le jazz, alors que là, c'est plus un jazzman qui est un petit peu venu au cinéma. Il s'agissait du pianiste Mal Waldron, donc en 1963, avec en soliste principal, on l'entendait surtout au début de ce morceau, Dizzy Gillespie. C'est une bande originale de jazz vraiment importante qui, je disais, se situait dans la lignée un peu des premiers films de Cassavetes, qui, on le sait, avait utilisé les services de Charles Mingus pour son premier film Shadows. Alors on va se transporter un tout quelques années plus tard pour poursuivre un peu l'histoire un peu de la manière dont le jazz a infusé la musique de film. C'est en 1968, donc, avec un musicien, un compositeur anglais important, et aussi pianiste de jazz d'ailleurs, Johnny Dankworth, qui a beaucoup travaillé avec sur les premiers films de Joseph Losey, notamment l'auteur de la bande originale de The Servant, enfin beaucoup de films anglais de la période, et puis aussi un film américain ou anglais en 1968, Salt and Pepper, une comédie qui mettait en scène Sammy Davis Jr. et Peter Lawford, deux membres honoraires du fameux Rat Pack auprès de Sinatra et Dean Martin. Et ce film, donc, c'est une comédie que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais la bande originale assez rare de Johnny Dankworth, elle est là aussi largement recommandable et largement jazz. Thank you. grande science du big band et de l'orchestre jazz, disons, par pour Johnny Dankworth, compositeur de ce Chase in Minimo, tiré de la bande originale de Salt and Pepper, en français c'était sel, poivre et dynamite. Bon, voilà. Et en tout cas, les Anglais connaissent eux très bien Johnny Dankworth, enfin en tout cas les amateurs de jazz, parce qu'il fut vraiment une figure du jazz en Angleterre très très importante, mariée à la chanteuse Cleo Lane, grande chanteuse aussi très connue outre-Manche, comme on dit. Alors un compositeur qui lui avait le jazz d'une certaine manière, a le jazz qui lui coule dans le sang, puisqu'il est toujours parmi nous, c'était Lalo Schifrin. Je lui avais rendu pas un hommage, mais en tout cas je lui avais consacré une série en début de saison, au mois de septembre dernier. Je vous renvoie à ses émissions, mais enfin évidemment il y a toujours des morceaux qu'on oublie ou qu'on ne peut pas diffuser, comme ce Cantata for Combo. C'est tiré de la bande originale, évidemment, peut-être de sa plus belle, la plus belle de Lalo Schifrin, celle de Bullitt en 1968. Lalo Schifrin, qui, je le rappelle, avait été le chef d'orchestre, l'arrangeur et le pianiste de Dizzy Gillespie. Donc, je le disais, sur le jazz, il en connaissait un rayon, et ça s'est beaucoup entendu dans ses bandes originales. Il a su mixer la musique de films hollywoodienne avec le jazz. Cantata for Combo de la BO de Bullitt. Thank you. un pur morceau de jazz dans extrait de la bande originale d'un chef-d'œuvre de Blake Edwards, The Party, avec Peter Sellers, bien sûr, un morceau bien sûr signé Henry Mancini and His Orchestra pour l'interprétation. Et dans cet orchestre, il y avait des cadors du jazz West Coast, Jimmy Rolls au piano, Shelly Mann et Ray Brown respectivement à la batterie, à la contrebasse, et notamment Place Johnson, saxophoniste dont le son est célèbre puisque c'est lui qui a placé son saxophone sur le thème de la Panthère Rose, autre thème assez jazz. Mancini, le jazz, bon, c'est pareil, c'est une affaire entendue. Le jazz est omniprésent dans toutes les bandes originales de Mancini des années 50-60, et c'est bien aussi que voilà, l'histoire du jazz au cinéma, ça passe aussi par tous ces compositeurs qui avaient ce lien personnel avec ce langage qui est le jazz. Alors un autre musicien qui fait partie de la même génération et du même style et qui était un protégé d'ailleurs de Mancini à Hollywood, c'est Quincy Jones, toujours parmi nous d'ailleurs. Quincy Jones, on l'aime énormément ici et là. Et Quincy Jones, ben il a commencé en gros sa carrière de musicien de film autour de l'année 1964 avec un cinéaste qu'il va retrouver à plusieurs reprises, Sidney Lumet. C'était pour la bande originale de The Pawnbroker, le prêteur sur gage, une des grandes bandes originales de Quincy Jones. Et si Quincy Jones était un musicien de jazz, il était peu considéré comme musicien. En revanche, pour les cordes, il faut dire qu'à l'époque, les Afro-Américains étaient tacitement interdits de diriger des cordes à Hollywood. Et c'est le premier Quincy Jones, grâce aussi à l'obstination de Sidney Lumet contre le studio, qui a pu justement mélanger le jazz avec les cordes. C'était donc un événement, et la bande originale qui en a résulté est assez magnifique. Je vous propose d'écouter le titre final de The Pawnbroker. Bon, je suis obligé de parler sur ce merveilleux morceau extrait d'une autre bande originale de Quincy Jones pour un film de Sidney Lumet, The Deadly Affairs M15, Demande Protection, un film d'espionnage. Là, on est dans une ambiance jazz un peu bossa nova. Il y a également un morceau interprété par Astrud Gilberto. Voilà, Quincy Jones, évidemment, en lien avec le jazz au cinéma. Dans le précédent extrait donc de The Pawnbroker, on retrouvait évidemment la fine fleur du jazz. Il y avait Freddie Hubbard, il y avait Oliver Nelson, il y avait Kenny Borel, Elvin Jones, bref, j'en passe et des meilleurs.
Ciné Tempo, la BO de la semaine.
Alors on quitte pas Quincy Jones pour la BO de la semaine, la vie est bien faite puisque la BO de la semaine fait référence à un DVD, un Blu-ray, DVD Blu-ray qui vient de sortir chez Wildside, accompagné d'un livre qui accompagne donc le film In Cold Blood, de sang-froid, l'adaptation du livre de Truman Capote, avec l'accent américain, tentative en tout cas, de par Richard Brooks, dans un noir et blanc impressionnant, très très charbonneux comme ça, avec une bande originale très impressionnante de Quincy Jones. Il considère en général que c'est son chef-d'œuvre et je suis pas loin d'être d'accord avec lui. C'est une bande originale qui avait un peu le mérite, enfin qui avait l'ambition de mélanger musique du XXe siècle avec jazz. Quincy Jones avait étudié, vous le savez peut-être, avec Nadia Boulanger à Paris, donc il connaissait tout ça parfaitement. Je vous propose d'écouter un extrait donc de cette bande originale assez remarquable, un extrait du coup assez jazz quand même. Ça s'appelle Lonely Bottles et le film date de 1967, il vient de ressortir, je le rappelle, dans une très très belle édition, très belle copie restaurée chez Wildside. Lonely Bottles, extrait de la bande originale d'In Cold Blood, le film de Richard Brooks, 1967, un film sur un fait divers criminel horrible que Truman Capote avait relaté dans son fameux livre justement de sang-froid. Cette édition donc du film est sortie chez Wildside, très beau Blu-ray et très beau livre qui accompagne cette édition. Vous pouvez retrouver aussi les morceaux de Quincy Jones sur le coffret qui a été sorti il y a à peu près 5 ans, 4 ans et demi, le cinéma de Quincy Jones. Merci à ceux qui m'accompagnaient, Audrey Guélil, Dorothée Gol pour la page Ciné Tempo sur le site francemusique.fr. Xavier Atto était au mixage et Thomas Jost à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série.
À réécouter sur francemusique.fr.